Chers amis, nous allons rouvrir nos Bibles dans le livre d'Esdras pour relire notre texte de base au chapitre 1er du livre d'Esdras. Nous relisons les 5 premiers versets. Esdras, chapitre 1er, les 5 premiers versets. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous, quel qu'il soit, est de son peuple, que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets, du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Nous considérons donc, pour notre troisième étude, et toujours le contenu du verset 3, en l'occurrence un décret royal, un décret qui émane d'un souverain qui n'était pas juif, qui ne croyait pas dans le Dieu d'Israël, un païen, et qui pourtant, nous l'avons remarqué, a tout un enseignement à nous donner. Dieu, dans sa souveraineté, sait nous parler de diverses manières. Il le fait par sa parole, il le fait par le témoignage de croyants, par un traité, par un livre, par une situation. Il sait se servir de la nature, des animaux, d'un beau paysage, et il sait aussi se servir des paroles d'une personne qui est tout à fait en dehors de Christ, mais qui va être utilisée sans le réaliser pleinement pour donner des indications, voire des directives de sa part. Qui d'entre vous, quel qu'il soit, est de son peuple? Première condition pour pouvoir être un bâtisseur pour Dieu. Appartenir au peuple de Dieu. Et nous avons hier soir évoqué cette nécessité d'être clair par rapport à son identité, appartenir au peuple de Dieu. Et cela nous a conduit hier soir à envisager cette tentation subtile qui guette le peuple de Dieu, les bâtisseurs de l'Église de Jésus-Christ, à savoir la tentation de l'amalgame. Savoir discerner les tentatives d'infiltration de la part de l'ennemi qui essaye de déstabiliser, de bloquer la croissance de l'Église. C'était notre thème d'hier soir. Cet après-midi, nous avons considéré la deuxième partie de ce décret dans cette affirmation, qui est aussi une très sérieuse interpellation, que son Dieu soit avec lui, que son Dieu soit avec lui. Et cela nous a permis de nous pencher sur les livres d'Esdras, de Néhémie, d'Agée, de Zacharie, même de Malachie, pour comprendre la tentation du découragement, la tentation de la résignation et les tentatives de déstabilisation. L'importance dans la vie de ceux qui veulent construire pour Christ d'une présence absolument indispensable. La présence du roi des rois, du seigneur des seigneurs, nous avons évoqué l'éternel des armées, l'importance d'une vision juste et claire de la personne de Dieu. Et je pense ici, en vous disant cela, à ce texte qui traite d'une petite construction dans 2 Rois 6. Hein, les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Et heureusement qu'Élisée est parti avec ses étudiants de l'école biblique d'alors. Il y a eu un problème ensuite, et la présence d'Élisée a été bien bénéfique pour se sortir d'une situation difficile. Tentation donc de l'amalgame, premièrement, tentation du découragement, deuxièmement, avec cette réponse extraordinaire, l'essentiel, c'est que Dieu soit avec nous. Et puis, troisième partie pour ce soir, de ce décret royal qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Qu'il monte. Eh bien, ce soir, nous allons monter. Nous allons suivre quelqu'un qui est monté. Nous avons le privilège, dans cette série de livres que nous étudions, d'avoir deux personnages qui, plus particulièrement, bien sûr, ils étaient entourés de pas mal de monde, mais il y a une sorte de loupe qui grossit quelque peu l'événement de leur propre cheminement, de leur propre montée à Jérusalem. Le premier nous intéresse ce soir, c'est Néhémie lui-même. Le second nous intéressera demain matin parce qu'il nous apportera un enseignement complémentaire et bienfaisant comme conclusion à ces 4 études, ce sera Esdras lui-même. Donc, ce soir, nous nous penchons sur la montée de Néhémie à Jérusalem, et ceci nous est expliqué, développé dans les 2 premiers chapitres en particulier du livre de Néhémie. Alors je vous encourage à ouvrir votre Bible au chapitre 1er, puisque nous allons nous pencher sur ces textes, et je rappelle pour les amis qui nous rejoignent ce soir que vous devez trouver sur vos chaises ou à proximité de vos chaises un petit document qui est une sorte de résumé, de point de repère historique qui nous évite de passer toute une heure à donner une quantité d'explications, de chronologie. Gardez ce document précieusement, vous pouvez annoter votre Bible à l'aide de ce document et il vous situe l'ordre des événements et donc des livres de la Bible qui collent avec ces événements, Esdras, Agée, Zacharie, Esther, Malachie, Néhémie, tout cela est remis à sa juste place et nous aurons l'occasion ici ou là encore ce soir de nous en servir en quelque sorte comme point de repère. Donc Néhémie 1 et 2, un homme de Dieu qui monte à Jérusalem. Qui monte à Jérusalem quelques 70 ans après la reconstruction du temple. Mais il est encore de ceux qui, dans un sens, d'une certaine manière, obéissent à ce décret de Cyrus et qui part donc pour Jérusalem 70 ans après la reconstruction du temple. Nous sommes en 445 avant Jésus-Christ, vous le verrez dans l'avant-dernière ligne des points de repère. Et il monte aussi à Jérusalem 12 années après la montée d'Esdras. Esdras qui nous intéressera demain matin dans notre conclusion. 12 années avec environ 1800 hommes pour Esdras, donc nous l'étudierons de près. Que s'est-il passé pendant ces 12 ans qui séparent le voyage des deux hommes? C'est intéressant de le mentionner très rapidement. Esdras donc part chargé d'inspecter Juda et Jérusalem, ce qui va nous intéresser demain matin. Il va y avoir à Jérusalem une humiliation, vraiment un climat de regret, de changement profond, de comportement par rapport au passé, de mise en ordre. Les Juifs réalisent leur culpabilité, le besoin de changer d'attitude. Ceci nous est raconté dans les chapitres 9 et 10 d'Esdras. Et c'est certainement aussi durant cette période de 12 ans que la construction des ou la reconstruction des murs, notamment de la ville, furent entrepris. Nous avons évoqué cet après-midi Esdras chapitre 4 verset 7 à 23 qui évoque Artaxerxès, ce souverain qui va favoriser l'action violente des ennemis de Juda. Et dans Esdras 4 verset 12 et 13, il est question de la reconstruction des murs de la ville elle-même et plus du temple. Cette période est passée. Voilà, très très rapidement résumé, les grands événements de ces 12 ans. Alors comment Néhémie est-il devenu un bâtisseur en montant à Jérusalem? Nous lisons les trois premiers versets de Néhémie 1, parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisleu, en novembre-décembre 446, on est sur le point de passer en 445, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité, au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine, ses portes sont consumées par le feu. Arrêtons-nous là pour le moment. Pour souligner tout d'abord une attitude tout à fait particulière et intéressante de la part de Néhémie qui, disons-le d'une autre manière, se refuse à l'indifférence. Et après avoir évoqué la tentation de l'amalgame et la tentation du découragement, ce soir nous allons nous arrêter sur la tentation de l'indifférence. La tentation, pourrions-nous dire autrement, de l'égoïsme indifférent. Souvenons-nous que Néhémie est un haut fonctionnaire, il occupe un poste clé auprès du roi dans cet immense empire, et il pourrait se satisfaire de son statut. C'est un homme, en quelque sorte dirions-nous aujourd'hui, qui a réussi sa vie, qui gagne bien sa vie, qui a un poste en or. Et pourtant, lorsqu'arrive dans une des quatre capitales de l'empire, à Suse, Hanani, l'un de ses frères, un des membres de sa propre famille, et quelques hommes en provenance de Juda, il nous a dit au verset 2, « je les questionnais. Je les questionnais. Il s'informe. Il interroge. Il enquête. Il veut développer dans son esprit une juste vision de la situation, des besoins, des problèmes de Judée et de Jérusalem. Le refus de l'indifférence. Il donne en quelque sorte à Dieu la possibilité de développer en lui sa vision et de mettre sur son cœur un fardeau. Il y a chez lui le refus du repliement sur soi, le refus de l'isolement, à l'écart. Et cela me rappelle Proverbe 18, verset 1er, « Celui qui se tient à l'écart ne recherche que son désir, ne recherche que ce qui lui plaît. » Ne veut pas être dérangé dans sa conscience, dans son cœur, dans son âme. Et je pense ici aussi à un texte du prophète Amos, donc aussi dans toute cette série de prophètes que nous avons considérés, le prophète Amos au chapitre 6 et au verset 4 à 6, dans une période qui était une période de grande prospérité matérielle en Israël et en Juda d'ailleurs, en particulier, et aussi, hélas, une période qui était triste dans le domaine spirituel. Et dans Amos 6, versets 4 à 6, nous avons eu une description de l'indifférence terrible qui existait, notamment à Jérusalem et en d'autres lieux chez les grands. Il nous est dit, au chapitre 6, verset 4, « Ils reposent sur des lits d'ivoire, ils sont mollement étendus sur leurs tapis, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux mis à l'engrais, ils extravaguent au son du luth, ils se croient habiles comme David sur les instruments de musique, ils boivent le vin dans de larges coupes, ils soignent avec la meilleure huile, et ils ne s'attristent pas sur la ruine de Joseph. » Joseph étant ici l'équivalent du peuple d'Israël. Ils ne s'attristent pas sur la ruine de leur nation. L'insensibilité de ceux qui préfèrent la tranquillité, de ceux qui ne veulent pas se laisser déranger, qui refusent de se laisser remettre en question, qui préfèrent ignorer. Je pense à un autre petit verset du prophète Jérémie dans une immense fresque sur la ville de Babylone, une de ses grandes capitales, dans Jérémie 51, au verset 50, Jérémie va, de la part de Dieu, exhorter le peuple. Et il va exhorter notamment le peuple en exil. Et il dit ceci dans Jérémie 51:50, dans la deuxième partie de ce verset 50, « De la terre lointaine, pensez à l'Éternel, et que Jérusalem soit présente à vos cœurs. » De la terre lointaine, pensez à Jérusalem. Pensez à l'Éternel et que Jérusalem soit présente à vos cœurs. Le refus de l'insensibilité, le refus de se contenter d'une douce tranquillité, l'acceptation du dérangement intérieur, devenir un bâtisseur pour Christ, c'est être actif dans notre recherche de la volonté de Dieu. Et il faut savoir qu'une conviction profonde se bâtit sur l'association parole de Dieu plus réflexion, observation, information, dialogue.
la recherche de la volonté de Dieu pour servir Dieu dans l'église locale ou au-delà de l'église locale. Et les besoins dans notre pays, pour ne parler que de lui, sont immenses. Notre pays est un champ missionnaire dont une énorme partie est en friche. C'est un véritable désert spirituel. Les besoins sont immenses. Eh bien, pour trouver la volonté de Dieu concernant notre responsabilité, ma responsabilité d'enfant de Dieu dans ce champ missionnaire, se bâtit à l'aide de la parole de Dieu, bien entendu, mais à laquelle j'associe ma réflexion, l'observation, l'information, le dialogue. Il y a refus de passivité. Dans la recherche de Dieu, de la volonté de Dieu, nous ne sommes pas comme les animaux, nous ne vivons pas simplement d'instinct. Vous connaissez ce texte du psaume 32 dans les versets 8 et 9. Une belle promesse au verset 8. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Alors j'attends. J'attends que le ciel s'ouvre. J'attends qu'une voix parle. Non ? Il y a le verset 9. Ne soyez pas entêté comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Ne vous conduisez pas comme des animaux dans la recherche de la volonté de Dieu. Ne vivez pas simplement un coup de révélation dans une espèce de passivité qui atteint, ou bien ne soyez pas non plus revêche, entêté, raide, trop engoncé, installé, paralysé dans le bourbier de votre tranquillité, au point que Dieu finalement est obligé d'utiliser le frein, le mors, voire l'éperon, pour nous faire sursauter, pour nous amener à sortir de nos ornières, n'est-ce pas ? Nous ne sommes pas des animaux. Dieu nous a donné des capacités de réflexion. Dieu nous a donné une intelligence. Et Dieu veut que nous mobilisions toutes nos facultés dans la recherche de sa volonté bien précise, qui va nous amener à nous joindre très concrètement à la cohorte des vrais bâtisseurs. Quelqu'un écrit que la consécration sans la réflexion intellectuelle, c'est du fanatisme en action, mais bien entendu, la réflexion intellectuelle sans la consécration, c'est la paralysie de toute action. Nous avons besoin d'une spiritualité équilibrée dans notre vie pour pouvoir servir. D'ailleurs, dans le chapitre 2, dans les versets 11 à 16, nous voyons Néhémie qui toujours utilise toutes ses facultés, toute son intelligence, qui se concentre, qui mesure, qui réfléchit, qui considère. Regardez à partir du verset 11 du chapitre 2. J'arrivai à Jérusalem, j'y passai 3 jours, après quoi je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il a réfléchi, il a mis au point une stratégie. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée, je me dirigeais vers la source du dragon, vers la porte du fumier, considérant, examinant, inspectant, c'est la même idée, les murailles en ruine de Jérusalem, et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passai près de la porte de la source de l'étang du roi, il n'y avait point de place par où puisse passer la bête qui était sous moi. Je montai de nuit par le torrent, je considérai encore la muraille, puis je rentrai par la porte de la vallée, et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé, ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux juifs, ni aux sacrificateurs, ni à aucun des grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Voyez comment cet homme considère, comment il réfléchit, comment il examine, il scrute. Il va avoir une idée juste. des besoins, de la situation. Alors pour nous, qu'est-ce que ça signifie? Voulons-nous être de bons bâtisseurs? Eh bien, il importe que nous posions des questions. Il y a des croyants, quand ils vous rencontrent, ils vous assaillent de questions. Je pense à un très cher ami qui est dans un fauteuil roulant que Dieu a utilisé longuement dans le passé, dans son œuvre en France. Et je le voyais il y a 2 années à peu près, et quand je suis arrivé dans sa chambre, cet ami m'a inondé de questions sur la situation évangélique en France, sur les besoins, etc. Cet ami était dans un état de santé... vraiment dans un délabrement au niveau de sa santé physique, et pourtant il éprouvait le besoin de s'informer. Il envisageait, avec le seul membre qui fonctionnait encore à peu près, c'était sa main droite, il envisageait d'écrire un livre sur l'évangélisation. J'étais impressionné. Un homme de Dieu qui ne cesse de s'informer, importance de la lecture, des rencontres missionnaires, de certains voyages. Je racontais aux amis chez qui je suis reçu que il m'arrive parfois d'être un peu désespéré quand je suis reçu dans certaines familles. Les moments les plus difficiles pour moi dans certaines familles, c'est lorsqu'on se contente de parler de la pluie, du beau temps et des nouvelles familiales, et que le repas dure. Alors que dans le fond, il faudrait que nous en profitions quand nous sommes ensemble, à table. Je ne demande pas mieux, n'est-ce pas, que de répondre à toutes sortes de questions, peut-être d'aider quelqu'un à développer une vision qui va l'aider à son tour, à pouvoir prier, à aller plus loin. Combien, parfois ça peut être triste, de manquer des occasions que Dieu nous donne, de nous former, des opinions. Une vision de travail se construit à partir d'une information honnête qui rencontre un cœur ouvert, prêt à être interpellé, prêt à être dérangé, prêt à être travaillé. Et vous avez remarqué sur quoi ça débouche? Et j'ai dit au verset 4, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis. Je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. Et il se met à pleurer. Un haut fonctionnaire, un de ses proches, du roi le plus puissant de l'époque, qui se met à pleurer. Est-ce que nous savons encore pleurer? Est-ce que nous savons encore pleurer? Et là, il s'agit d'un homme de surcroît. Est-ce que nous savons encore pleurer sur la situation de notre Jérusalem à nous? La situation de notre peuple? La situation aussi de l'Église, ce désert spirituel. Cela me touche que Néhémie, dans sa fonction, ne soit pas un homme blasé, un homme endurci. C'est un homme qui est sensible à l'action du Saint-Esprit. C'est un homme qui pleure. Il souffre, il est solidaire, il se sent concerné. C'est un homme qui aime son peuple. Et j'ai tellement l'impression que, en disant cela, je m'inscris complètement à contre-courant aussi de notre société moderne. Après moi, le déluge. L'essentiel, c'est que je m'en sorte. Pourvu que moi je m'en sorte, les autres. L'égoïsme indifférent. Mais vous remarquez une chose, c'est que l'exercice de la volonté a précédé les sentiments et les émotions. Il a fallu un travail de la volonté. Il a fallu interroger. Il a fallu questionner. C'est pas l'inverse. C'est pas simplement un coup d'émotion, comme ça, comme on les aime aujourd'hui. Non, c'est quelque chose qui repose sur un sol beaucoup plus solide. Travail de la volonté d'abord, sur lequel le Seigneur produit une action au niveau des sentiments. Deuxième étape, pour que Néhémie monte, ben, il prie. Néhémie prie. Il cherche Dieu. Nous en reparlerons demain matin. Il cherche la face de Dieu, en larmes. Mais il éprouve le besoin de rencontrer son Dieu. C'est-à-dire qu'il va aussi au-delà de l'émotionnel. Il va au-delà du sentimental qui pourrait n'engendrer que du vent. Parce que c'est facile de se laisser quelque peu chatouiller, remuer les sentiments dans le cadre d'une réunion où peut-être le prédicateur saura habilement toucher à ses cordes sensibles. Et puis on aura à peine rejoint sa voiture que tout sera déjà terminé comme rosée du matin qui passe au soleil. Mais ce qui m'interpelle, c'est que cet homme de Dieu, touché dans ses sentiments en profondeur, se met à prier. Il entre dans le combat de la prière, et nous l'avons dit cet après-midi, Néhémie est un homme de prière, 14 mentions de prière dans tout le livre. Et il ne prie pas n'importe comment. Il y a des dominantes dans sa prière, que j'appelle la prière du vrai serviteur. Pourquoi ? Parce qu'il s'intitule 8 fois dans cette prière serviteur. C'est-à-dire qu'il est conscient d'avoir affaire à l'Éternel des armées, à celui que nous avons appelé le Seigneur cet après-midi. Il y a dans la vie, dans l'attitude de Néhémie, un esprit de serviteur. C'est-à-dire qu'il entre dans l'attitude de celui qui est disposé à se soumettre à son Seigneur. Et comment commence-t-il ? Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Ça, c'est presque une constante dans la prière de ces hommes de Dieu qui parcourent l'ancienne alliance. Ils adorent le Dieu grand et redoutable. Dans ses larmes, il a une juste vision de Dieu. Voyez comme tout se touche, ce que nous disions cet après-midi. Il a une juste vision de Dieu, d'un grand Dieu. Que son Dieu soit avec lui. Une juste vision d'un grand Dieu, mais en même temps, d'un Dieu très proche. Dieu grand et redoutable. Dieu transcendant. Totalement différent, totalement autre, aux antipodes, totalement distinct de sa création. mais en même temps tellement proche de l'homme. Dieu miséricordieux, et particulièrement miséricordieux à l'endroit de ses enfants qui lui obéissent. Ces deux dimensions tellement paradoxales de la personne de notre Dieu. Un Dieu immense qui nous dépasse infiniment, qui par certains côtés est si loin de nous, et pourtant si proche, si compatissant, qui nous comprend si bien, dont le cœur est profondément touché par la misère de nos vies, au point qu'il a donné son Fils Jésus-Christ pour que nous soyons réconciliés avec lui. Juste vision de Dieu. Et puis, il continue, que ton oreille soit attentive, que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché, nous t'avons offensé. Nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse et ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai, je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Deux remarques. Tout d'abord, il s'humilie. Il ne dit pas « Moi, je suis un chic type, je suis bien, je suis le champion des hommes spirituels, de l'autre côté, il y a cette racaille, ce peuple qui ne vaut rien. » Il s'identifie, il se solidarise avec le peuple. Ça, c'est l'esprit du serviteur. Et c'est ce qu'il fait pleurer. S'il avait considéré qu'il était un type formidable et que le peuple ne valait rien, jamais il n'aurait pleuré. Mais il est lui-même compatissant. Et il refuse de ne voir que le péché de l'autre. Et puis ensuite, sa plaidoirie est fondée sur les Écritures. Et derrière ces versets se cache une quantité d'allusions directes à des textes de l'Ancien Testament, à des textes du livre du Deutéronome, notamment. C'est-à-dire que Néhémie est un homme qui est pétri de la parole de Dieu. Un homme qui connaît les Écritures et le Dieu des Écritures. Et donc qui alimente sa vie de prière d'éléments extrêmement solides et de promesses de Dieu. Il dit, écoute, voilà, tu as dit ceci, et puisque tu as dit ceci, je vais aller dans ce sens, parce que je sais que si je vais dans ce sens, tu seras aussi fidèle à tes promesses. Donc sa prière est consistante. Elle repose sur un terrain solide, un terrain que Dieu agrée. Puis on arrive au verset 11. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme, ou que cet homme m'accueille avec compassion. Je ne sais pas si vous remarquez cette espèce de basculement, de changement qui s'opère à un moment donné de la prière de Néhémie. Au verset 11, donc dans la deuxième partie, « Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. » C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a le sentiment qu'il nous faut absolument lire entre les lignes du texte. Qu'il doit se passer quelque chose dans la relation de Néhémie avec Dieu pour qu'il dise « Donne maintenant !» C'est ce moment où, dans le cours de la prière, le Saint-Esprit interpelle. Ce moment où le Saint-Esprit intérieurement dit, mais toi, Maurice, toi, qui prie de tout ton cœur pour cette situation de Jérusalem, toi qui t'es informé, toi qui pleures, toi qui t'appuies sur mes promesses, toi, que feras-tu pour moi, toi, dans cette situation? Il arrive un moment où le Saint-Esprit vous interpelle, vous, directement. Où est ta place? Où est ta responsabilité? Toi, comment vas-tu t'engager? Comme si à un moment donné, quand nous sommes en train de prier pour savoir comment servir le Seigneur, le Saint-Esprit nous disait, ben, mon ami, maintenant c'est le moment de donner des preuves que ton christianisme est plus que verbal. Que ton christianisme est un christianisme engagé. Ça, c'est ce que j'appelle le sommet du combat de la prière. C'est ce moment où le Saint-Esprit vous empoigne le cœur, il vous saisit au niveau de la conscience. Le moment où je réalise que je suis directement concerné. Et prier, c'est ça. C'est s'asseoir pour calculer la dépense. C'est réaliser ce que cela va coûter dans ma vie. Et ça a beaucoup coûté à Néhémie. Ça a coûté en intrigue, en menace, en intimidation, en lettres ouvertes, en soucis de tout genre. Il suffit de lire toute la suite du livre de Néhémie. Il y a des moments où dans notre vie de prière, quand nous voulons vraiment faire la volonté de Dieu et nous engager à bâtir au plan local ou au-delà, il arrive un moment où nous avons l'impression de vivre un petit peu à notre échelle un petit Gethsémané. Où c'est dur. Et dans ce moment-là, Dieu va dire à Néhémie, Néhémie, c'est toi qui vas monter à Jérusalem. Tu t'es informé, tu as pleuré, tu m'as supplié. Ben maintenant, monte. Peut-être que Néhémie a été tenté de dire, écoute, envoie un tel, envoie un tel, envoie un tel, envoie un tel. Il avait un tas de copains, de membres de la famille autour de lui, de gens qu'il estimait peut-être plus capables, plus disponibles, mieux placés que ces gens corps. Puis Dieu lui dit, non, c'est toi. Monte à Jérusalem. Engage-toi personnellement, d'ailleurs au chapitre 2 et au verset 12, c'est bien ce qui va être mentionné, n'est-ce pas? Après quoi je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Dieu lui avait mis au cœur de monter et de se mettre au travail. Alors il peut y avoir un certain nombre de réactions dans ces moments-là dans nos vies. Il peut y avoir le pessimisme de l'incrédulité, la panique devant les géants de l'impossible. Nous en avons parlé cet après-midi. Il peut y avoir la peur de l'échec. Il peut y avoir toute une levée de boucliers, toutes les excuses, et nous en parlerons, notamment les excuses financières. Comment ? Vous parlez de conjoncture économique difficile ? Vous osez ? Ma maison n'a pas de toit. Et vous, non seulement vous avez des maisons qui ont des toits, mais en plus, vous les lambrissez comme les huiles du pays. Parce que généralement, c'était la coutume des grands. Et d'ailleurs, on se demande, même si les Juifs n'utilisez pas le bois de cèdre du Liban, qui avait été coupé d'après le livre d'Esdras pour le temple et qui était là en plan depuis 15 ans. Et comme ce bois était inutilisé, eh bien, les gens allaient se servir du bois qui avait été préparé pour le temple et ils lambrissaient leur maison. Ah oui, la conjoncture économique était difficile, effectivement.
Oui.
Mes amis, ça n'a pas changé. Moi, je veux bien qu'on parle de crise aujourd'hui. Et c'est vrai que mon cœur est ému quand je pense au drame du chômage. Mais en même temps, nous parlons de crise quand une grande partie de l'humanité vit une vraie crise à côté de laquelle notre crise est si peu de choses. Il suffit de voyager un peu. Et je suis toujours repris dans mes voyages outre-mer quand je vois la pauvreté de croyants qui ont si peu de moyens et qui sont si consacrés. On achète encore des magnétoscopes, hein? Ça ne fait pas partie des nécessités du foyer, que je sache. On fait encore une quantité d'autres achats qui, disons-le, ne font pas partie des premières nécessités. Je crois que le vrai problème, il est ailleurs. Et je suis très frappé de voir dans l'œuvre de Dieu aujourd'hui que les plus généreux pour l'œuvre de Dieu, ce sont les personnes âgées d'humbles conditions. Ouais. D'humbles conditions. Et j'ai toujours été très édifié par la générosité et la discipline financière de ces personnes. Et ça m'interpelle. Ça m'interpelle. Nous y reviendrons tout à l'heure à l'approche de notre conclusion. Et puis il y avait dans les réactions possibles toutes les réactions dues au fait qu'Artaxerxès, le patron de Néhémie, n'était pas un enfant de cœur. Qu'il avait montré son hostilité à l'endroit de Jérusalem. Notre homme avait une place d'or comme échanson. C'était un haut fonctionnaire de l'Empire. Voyez, il y avait toutes sortes de raisons qui devaient bouillonner dans le cœur de Néhémie pour le pousser à dire non. Non, moi je n'irai pas. Et pourtant, la réaction de Néhémie est autre. Il va prier pendant 4 mois de prière, et au bout de 4 mois, il va faire la démarche concrète, il va partir. Et il va, pendant ces 4 mois, réfléchir, mettre au point une stratégie, préparer son voyage. Parce que ça aussi, c'est intéressant. Pendant ces 4 mois, il travaille. Le chapitre 2, dans les versets 7 et 8, montre qu'il réfléchit tout en priant quand il est dit « Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer, entrer en Juda, une lettre pour Asaph, garde de la forêt du roi, afin qu'ils me fournissent du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville, pour la maison que j'occuperai. » Et le roi me donna ces lettres. Donc, il a mis au point très soigneusement, posément, toute une stratégie de manière à ce qu'à l'heure de Dieu, il soit prêt. Ça, c'est aussi une manière de devenir un bon pâtisseur. On se prépare. Et puis, il travaille, il prie, et à l'heure de Dieu, 4 mois plus tard, chapitre 2, verset 1, l'impossible se réalise au mois de Nisan, mars-avril 445 avant Jésus-Christ, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Vous savez, ça c'était une question qui pouvait valoir l'exécution, la peine capitale. Ses souverains étaient tellement capricieux qu'il ne fallait surtout pas oser se présenter de manière triste devant le roi. Il n'y a pas d'hypocrisie chez ce haut fonctionnaire. Mais Dieu a travaillé. Tu n'es pourtant pas malade. Ça ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte, on comprend pourquoi. Je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priais le Dieu des cieux. Toujours, hein, cette touche de prière personnelle. Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères. À l'heure de Dieu, Dieu incline les cœurs. À l'heure de Dieu. Et ça, c'est tellement important dans notre vie de bâtisseur. Il importe aussi de construire à l'heure de Dieu. À l'heure de Dieu, Dieu incline les cœurs. Pas avant. Et combien d'églises se sont cassées la figure et combien d'enfants de Dieu se sont cassés la figure parce qu'ils ont voulu aller trop vite. Ils n'étaient pas suffisamment préparés, ils étaient trop impatients. Et ils n'ont pas attendu le feu vert. Et ça leur a parfois coûté très cher. Et David, démangé dans son amour, dans sa passion pour l'Éternel, de construire le temple. Et son conseiller spirituel lui a dit, mais tu sais, vas-y, tu peux y aller. De toute façon, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Et puis en pleine nuit, Dieu a dû dire le contraire. Il dit, oui, c'est bien, tu as bien fait de demander, tu as raison. Dans le fond, c'est le signe de ton amour pour moi. Mais je suis obligé de t'annoncer que ça ne sera pas toi qui bâtiras, ce sera ton fils. C'est pas encore le moment. Et on pourrait avancer toute une série de raisons très pratiques. J'en ai 5 sous les yeux, mais je ne vais pas vous les développer maintenant. Il y avait 5 grandes raisons qui faisaient que l'heure de la construction du temple n'était pas encore là. Et ce qui est beau, c'est que quand David a répondu à l'Éternel, il ne s'est pas révolté. Il a accepté. Ce n'est pas encore ton heure, mais Seigneur, je te bénis pour tout ce que tu m'as annoncé. Tu veux me faire une maison stable, etc. Et tu m'annonces ces choses, je te bénis, je t'adore de tout mon cœur. Apprendre à construire dans le temps de Dieu et dans sa volonté. Et finalement, donc, il part, il monte à Jérusalem. Il quitte la cour. Il refuse de jouir plus longtemps du luxe, des loisirs de ce monde, pendant que son peuple souffre. Ce haut fonctionnaire refuse de centrer sa vie sur la prospérité matérielle. Or, il est environné de juifs qui n'ont qu'une seule préoccupation, c'est de sauvegarder leurs intérêts. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, peu nombreux seront les juifs qui reviendront à Jérusalem. Parce que chacun s'est bien installé, les juifs sont devenus très riches, Au point même, et c'est le livre d'Esther au chapitre 3, verset 9 qui nous le dit, qu'Aman, cet ennemi, ce ministre ennemi des Juifs, pense pouvoir remettre au roi 10 000 talents d'argent dans son coffre, si le roi l'autorise à exterminer ces Juifs. Bien entendu, il n'a pas ces 10 000 talents d'argent à la banque. Mais il sait simplement où il pourra aller les chercher. S'il extermine le peuple, il aura une quantité de talents d'argent pour son propre fonds et il pourra facilement donner 340 tonnes d'argent au roi en dépouillant les Juifs. Et on sait qu'effectivement les Juifs étaient bien installés à Babylone et que beaucoup d'entre eux n'étaient surtout pas désireux de revenir à Jérusalem. Eh bien voilà un homme qui s'inscrit à contrario, qui marche à contre-courant, qui ne veut pas être de ce peuple prospère sur le plan matériel, mais auquel Dieu a caché sa face. Et cela aussi m'interpelle. Néhémie va choisir la vie rude d'un pionnier dans une terre de désolation. Il va même choisir la baisse de son pouvoir d'achat. Ouais. Un sacré changement de régime financier. Et si nous avions beaucoup de temps, si nous passions une semaine ensemble sur ce thème, nous aurions pris Néhémie 5 pour voir la manière dont Néhémie envisage l'approche des biens matériels, l'approche de l'argent. Oh, c'est très intéressant. Et on peut comprendre qu'il soit devenu un grand bâtisseur pour Dieu. C'est Martin Luther qui écrivez ceci, trois conversions sont nécessaires, la conversion du cœur, celle de la pensée et celle du porte-monnaie. Et si nous voulons vraiment devenir des bâtisseurs pour Dieu, ce problème aussi doit être réglé dans notre vie. Il faut que notre relation par rapport à l'argent soit juste. Ça peut prendre parfois des années dans nos vies, jusqu'à ce que véritablement nous ayons un nouveau type de relation avec les biens matériels, avec l'argent. Mais Dieu veut aussi gagner dans ce domaine dans nos vies. C'est cet homme de Dieu que fut Osère qui écrivit ceci, il ne fait aucun doute que l'attachement à la possession des choses matérielles constitue l'un des penchants les plus pernicieux de la vie. Et comme il semble si naturel et qu'il est si répandu, il est rarement dénoncé comme un mal. Pourtant, ses effets sont néfastes et tragiques. Cette calamité tenace aussi vieille que l'humanité ne peut être extirpée sans souffrance et sans peine. L'avare coriace que nous abritons tous en nous ne déposera pas les armes et n'acceptera pas de mourir tout simplement en obéissance à un ordre donné. Il doit être extirpé, arraché de notre cœur comme on arrache une plante du sol, extrait dans le sang et la douleur comme on arrache une dent. Il doit être chassé de notre âme comme Christ a expulsé les changeurs de monnaie du temple. Et il faut le dire. Un de nos grands problèmes, c'est le matérialisme. C'est un de nos problèmes. Nous ôtons à Dieu la liberté de nous utiliser, tellement nous sommes attachés aux biens qu'en réalité Dieu nous a simplement confiés pour les gérer à sa gloire. Devenir un bâtisseur pour Dieu, c'est tenir légèrement les biens de ce monde. pour ne pas s'y attacher, pour pouvoir les lâcher à tout moment. Tout simplement parce que de toute manière, il faudra un jour que nous les lâchions. Quelqu'un a dit que l'enfant, quand il vient au monde, a les poings fermés. Un symbole. La personne sur son lit de mort a les mains ouvertes. Un symbole. On n'emporte rien avec. Même si on voit maintenant, curieusement, parfois, des coffres-forts suivre des corbillards. Il y en a qui se font encore des illusions. Nous le disons, Néhémie a une juste attitude vis-à-vis des biens matériels. Agée, chapitre 2, verset 8, nous avons étudié cet après-midi. L'argent est à moi, dit l'Éternel. L'or est à moi, dit l'Éternel. Je pourrais passer des jours à vous raconter tant de délivrance de Dieu au plan financier dans notre ministère. Tant d'interventions extraordinaires de Dieu. Vous savez, Dieu s'occupe de ceux qui le servent. Il est meilleur que tous les patrons humains. Même si pour notre éducation spirituelle, il nous fait passer par des cheminements où nous connaissons et l'abondance et la disette. Parce que nous devons apprendre à vivre dans l'abondance. Et nous devons apprendre à vivre dans la disette. Il y a des enseignements à recevoir de Dieu pour notre formation spirituelle dans ces deux domaines. Et il le fait, et il le fait bien. Il monte à Jérusalem. Et en montant à Jérusalem, il va, dirions-nous aujourd'hui, vers la croix. Il va vers le tombeau vide. Il rejoint Christ, dirions-nous aujourd'hui, sur le terrain de la mort et de la résurrection. Vous avez remarqué comment Cyrus dit, c'est le Dieu qui est à Jérusalem. Nous ne servons pas n'importe quel Dieu. Et Jérusalem est un lieu crucial dans l'histoire, entre guillemets, de Dieu. Quel rendez-vous solennel, extraordinaire de Dieu avec l'homme dans ce corps écartelé sur la croix de Golgotha. Devenir un bâtisseur, c'est monter à Jérusalem. C'est accepter dans ma vie la croix. Pour connaître la résurrection. Mais c'est aussi quitter l'exil. Et Néhémie quitte l'exil. Néhémie va trouver une vraie liberté. Et puis Jérusalem veut dire possession ou habitation de paix. Quelle paix de bâtir en étant au cœur du plan de Dieu. Il retrouve Judas. Judas qui signifie louange. Il vit à la hauteur de son nom. Néhémie signifie l'Éternel console. Il devient un véritable consolateur en cherchant le bien des enfants d'Israël. Chapitre 2, verset 10. Il cherche le bien des enfants d'Israël. Tout comme, nous le verrons demain matin, Esdras, lui aussi aura vécu à la hauteur du sien, aide de l'Éternel, ou celui qui aide l'Éternel, et c'est ça être bâtisseur. Consolateur de Dieu, aide de l'Éternel. C'est ainsi que l'on devient bâtisseur dans l'église locale, dans notre région, dans notre pays, ou ailleurs, au-delà des mers, là où il plaît à Dieu de nous placer dans son champ. Et les besoins, je l'ai dit, sont immenses. Je résume. Refus de l'indifférence. Combat de la prière. Entrée dans l'action concrète, y compris en acceptant dans ce contrat qui nous lie à Dieu de perdre des avantages humains, matériels, mais sachant que Dieu est fidèle avec ses ouvriers. Une dernière remarque d'avertissement. Le livre de Néhémie constitue la dernière page historique de l'Ancien Testament. À cette dernière page historique de l'Ancien Testament correspond une dernière page prophétique. C'est le livre de Malachie, rédigé très certainement aux alentours de l'an 433 avant Jésus-Christ. Ensuite, Dieu va se taire. Et Dieu va se taire pendant 4 siècles. Grand vide, grand silence de Dieu. Jusqu'à la venue du précurseur du Messie, de Jean-Baptiste. Grand silence de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'Israël va devenir un peuple effronté, un peuple impudent, impoli, toujours en train de discuter avec Dieu et de contester son autorité, au lieu de s'humilier sous sa main. C'est là le grand message du livre de Malachie. Je vous ai aimé, Israël.
En quoi nous as-tu aimé ?
Et tout au long du livre de Malachie, le peuple d'Israël est d'une indélicatesse, d'une impudence, d'une impolitesse qui va conduire Dieu à se taire. C'est un avertissement. Il peut arriver aussi dans nos vies. Après que Dieu ait parlé, parlé, parlé encore, de diverses manières, il peut arriver que notre impudence, notre impolitesse, notre discourtoisie deviennent telles que nos cœurs s'endurcissent au point que nous devenons incapables de pouvoir saisir la voix de Dieu et l'appel à être des bâtisseurs. Souvenons-nous que le livre d'Esther a ceci de particulier, c'est qu'il est le livre de l'absence d'un Dieu présent. En effet, dans ce livre, jamais le nom de Dieu n'est mentionné. Dieu est présent partout, mais jamais son nom n'est mentionné. Et tout cela en grande partie parce qu'un peuple en exil a préféré la prospérité matérielle à l'obéissance à l'appel de Dieu au retour. Alors Dieu a continué à travailler parce qu'il est souverain et qu'il ne cesse jamais de travailler. Mais il a voilé sa face au regard de son peuple. C'est un avertissement. Et nous devons aussi le donner. Dieu veuille que nous soyons de ceux qui montent à Jérusalem, que nous acceptions vraiment devant Dieu d'interroger, de questionner, de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux de ma part ? Où puis-je être utile ? Où puis-je être utile dans mon église locale, déjà que ça commence là ? puis Seigneur, il y a besoin de bras partout. Savez-vous qu'une quantité d'œuvres évangéliques dans notre pays recherche des bras dans quantité de domaines? Nous avons un mal fou aujourd'hui à trouver des gens qui acceptent de vraiment se mettre au travail. Pas d'indifférence. Coupable. Levons-nous et bâtissons, disaient les prophètes de la part de l'Éternel. Et le livre d'Agé dit que le peuple s'est levé avec ses chefs. Ils se sont mis à travailler. Et la construction a eu lieu et c'est Dieu qui a eu le dernier mot. Qu'il en soit ainsi. Aussi dans notre petit groupe, nous voulons prier. Seigneur, nous te bénissons pour l'exemple de Néhémie, pour ce refus de l'indifférence dans sa vie. Ça n'a pas été facile. Nous pouvons imaginer son combat. Ces tentations. Mais merci, merci de ce qu'il ait accepté de monter à Jérusalem. Et merci pour l'exemple de foi, d'audace spirituelle, de piété personnelle qu'il y a montré au peuple de Juda. Merci pour son désintéressement, pour son engagement. Seigneur, tout cela nous interpelle. Et nous te prions les uns pour les autres, afin que tu nous gardes de quitter ce lieu et d'avoir eu simplement dans notre vie une réunion de plus. Donne-nous au-delà de ce lieu de vraiment nous mettre à prier et d'agir, de réfléchir, de questionner, de nous informer, de nous intéresser à ton œuvre dans notre pays, à ses besoins, à commencer par notre église, par notre ville, par notre village. Sachant que si nous sommes fidèles dans de petites choses, tu nous confieras aussi de grandes choses au fur et à mesure, selon les capacités que tu nous donneras. Seigneur, mets ton sceau sur ce partage. Visite-nous. Renouvelle-nous. Façonne-nous. Pour la gloire de ton nom. Et parce que Jésus, ton Fils, lui aussi est monté à Jérusalem. Et il a quitté le palais royal sublime, le plus extraordinaire, en quittant les cieux pour venir au-devant de notre misère. Merci pour cet exemple suprême, inspiration et source de notre engagement. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.